La première chose que nous voyons ensemble et que nous allons voir cet après-midi, c'est qu'il y a donc tout simplement une hiérarchie dans le principe de la Trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous allons essayer de développer ça pendant quelques instants. Et puis nous verrons également que Jésus-Christ, et c'est ce qu'il nous faut prouver pour pouvoir nous assurer, comme je le disais ce matin, que notre Dieu n'est pas un Dieu particulier, mais notre Dieu n'est pas le Dieu de toutes les religions. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait finalement toute la différence dans son fonctionnement. Alors, on va lire ensemble un texte dans la première épître aux Corinthiens. Voilà, première épître aux Corinthiens. Nous allons voir l'ordre dans un premier temps de ces trois personnes. C'est vrai que souvent dans la Bible, nous nous rendons compte que s'il n'y a pas d'ordre, ben c'est le bazar. Déjà dans la famille, dans le foyer, dans notre monde, un peu partout finalement, il faut de l'ordre. Et Dieu souvent dit, mais tout fonctionne avec ordre, en paix et dans l'ordre. Et on se rend compte que dans le fonctionnement de la Trinité, c'est la même chose. Là aussi, il nous faut de l'ordre et là aussi, il nous faut un fonctionnement ensemble. Un Corinthiens, chapitre 11, verset 3, nous dit ceci, « Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Ils sont contents là. Hein? Et il faut de l'ordre, n'est-ce pas? Alors, je veux que vous sachiez, dit Paul aux Corinthiens, que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. On ne va pas débattre sur le sujet de la place de la femme, quoique il est très très intéressant, et la Bible est justement très claire sur ces choses concernant la femme, le mari, Christ, Dieu, etc. Et dans le fonctionnement, il y a des choses qui sont très intéressantes. Un autre verset également, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27, nous dit... Dieu a tout mis sous ses pieds, sous-entendu sous les pieds de Christ. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Ça veut dire que Dieu a soumis toute chose à Jésus-Christ, mais Dieu, bien sûr, n'est pas soumis au Fils. C'est le Fils qui est soumis au Père. Matthieu, chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. On se rend compte que là, même s'il y a une parfaite entente dans la Trinité entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, on se rend compte que la hiérarchie est respectée, il y a des choses que seul Dieu va connaître, et les autres non. Même si le Saint-Esprit est celui qui sonde les profondeurs de Dieu, il y a quand même des choses qui restent encore, non pas comme cachées, comme un mystère, mais il y a des choses dans la hiérarchie qui restent tout simplement entre les mains du Père, d'autres qui sont entre les mains du Fils et d'autres qui sont entre les mains du Saint-Esprit. Dieu est le chef de Christ, il est le souverain absolu, c'est lui qui détient les temps et les moments de ce monde. C'est la preuve ici tout simplement que ces trois personnes sont bien aussi trois personnes différentes avec des fonctions bien aussi à chacune d'elles appropriées et différentes. Je vais demander aux garçons. Deuxièmement, on va s'arrêter quelques instants sur la divinité des trois personnes. Alors, on a déjà vu la divinité de Dieu. C'est la première personne de la Trinité. Nous avons déjà vu mardi soir qu'il est le Dieu suprême et que là, bon, eh bien, il n'y a pas grand-chose à voir concernant cela. Il est inutile de démontrer sa divinité. Il est, nous l'avons vu, celui qui s'appelle « Je suis ». Donc il se présente de cette manière-là, Dieu, le Père, est divin. Par contre, c'est autre chose de nous rendre compte que Dieu le Fils, partie B, Dieu le Fils est la deuxième personne de la Trinité, que lui aussi a tous les attributs divins. Nous voyons, première partie, qu'il était dans le ciel avant sa venue sur la terre. On l'a effleuré généralement un tout petit peu ce matin, et nous allons voir cela. Jean chapitre 3 verset 13 nous dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et le verset suivant également, qu'on a cité ce matin, avant qu'Abraham fût, dit Jésus, je suis. Ici, Jésus va souligner sa divinité. Avant qu'Abraham fût, c'était un homme, mais il n'est plus. Et le « je suis », qui est un attribut divin, c'est ainsi que Dieu s'est révélé d'ailleurs à Moïse, « je suis celui qui s'appelle je suis ». Et ici, si Jésus avait parlé en tant qu'homme, il aurait dû dire ici, avant qu'Abraham fût, j'étais. Ça aurait été un peu plus logique dans le français. Mais il ne prononce pas cela. Volontairement, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et il s'attribue à lui-même en tant que fils, ce que Dieu lui-même, la manière dont il s'est présenté à Moïse, ce qui prouve bien, là encore une fois, que les attributs divins sont aussi affectés à Jésus-Christ. Mais dans le ciel, on se rend compte ici que Jésus est Dieu. Il est ce « je suis ». Certains l'ont appelé, et nous avons certaines traductions également, « Yahvé », qui nous parle de la présence divine dans le ciel avant Abraham. Philippiens nous dit au chapitre 2, verset 6, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Que nous dit la Bible ? La Bible nous dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi ? Bien, il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé lui-même de sa gloire, de tous les attributs qu'il avait. Il s'est dépouillé lui-même pourquoi ? Eh bien, pour prendre une forme de serviteur. Et il est venu sur cette terre en tant qu'homme. Qu'est-ce que nous avons ici à ce moment-là ? Nous avons non pas la réincarnation, parce que la réincarnation n'existe pas, mais nous avons ici tout simplement l'incarnation, ce qui n'est pas un mystère, comme le dit l'Église catholique, mais une réalité évidente, prouvée ici par les Écritures. Nous avons l'incarnation de Dieu dans la personne même de Jésus-Christ. Deuxièmement, l'Ancien Testament nous parle de Jésus. Vous savez que tous les livres de la Bible parlent de Dieu, sauf un. Ouais. C'est le seul livre qui ne nous parle pas de Dieu, et qui pourtant fait partie des 66 livres, et qui sont inspirés. Maintenant, c'est vrai, quand on regarde véritablement, il y a dans le livre d'Esther le type même de Jésus-Christ, bien évidemment, mais c'est le seul livre où, effectivement, le mot l'Éternel, Seigneur, Dieu, n'est pas prononcé. C'est là le récit d'une histoire formidable, mais bien sûr, à travers le récit de cette histoire véridique, nous voyons l'apparition de Dieu et du Seigneur qui va se manifester. Et donc, l'Ancien Testament nous parle de Jésus. D'ailleurs, un jour, peut-être, j'aurais pu l'intégrer ici, mais je ne l'ai pas fait pour ne pas être trop long. Mais un jour, on pourrait prendre justement où, dans chaque livre, il nous est question de Jésus-Christ. C'est très intéressant et très important de savoir cela aussi, que chaque livre, à un moment donné, nous parle du Seigneur, nous parle du Sauveur. On se rend compte qu'il y a un fil conducteur. Jamais, même si les livres sont très différents, et comme nous l'avons vu en introduction des vérités fondamentales quand nous avons étudié les Écritures, l'inspiration des Écritures, on se rend compte que du début jusqu'à la fin, le fil conducteur est toujours le même. Et de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Jésus-Christ y est présenté. Dans chaque livre, chaque livre, chaque livre, chaque livre. Et donc, il est vrai que parfois, il est un peu caché. Et il faut le découvrir. Tous les livres de l'Ancien Testament nous parlent de Christ, nous prouvent de sa divinité. Plus de 60 prophéties ont été données sur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, et se sont toutes réalisées, confirmées dans le Nouveau Testament. Ça, c'est important également de le savoir. Nous le trouvons, nous en avons vu une partie ce matin, à la création. Nous l'avons déjà vu. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 5, il est dit « Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. » Et nous nous sommes arrêtés ce matin quelques instants sur le fait que la parole, c'est Jésus-Christ qui a été fait chair. La parole a été faite chair et Christ est venu. Deuxièmement, il apparaît sous la forme de l'ange de l'Éternel. N'avez-vous pas lu souvent dans l'Ancien Testament quand Abraham a soit comme une vision ou qu'il y a une intervention dans sa vie, il est question de l'ange de l'Éternel. Vous avez déjà lu ce texte-là ou ces textes? Il faut distinguer l'apparition de l'ange de l'Éternel et d'un autre ange, il me semble. Lorsqu'il est écrit l'ange de l'Éternel, il s'agit très certainement de la présence même de Jésus-Christ, mais dans l'Ancien Testament. Alors que sur la terre, il n'était pas venu, mais il intervenait déjà dans la vie des croyants. Et c'est à travers ces apparitions que nous découvrons quoi ? Sa divinité. L'ange de l'Éternel, sous forme humaine, ne va pas venir et intervenir qu'une seule fois. Il va s'approcher d'Abraham, il va s'approcher d'Agar, souvenez-vous, dans le désert. Il va s'approcher de Lot, de Moïse, de Josué, des Israélites à Bokim, de Gédéon également, de Monaïk, la mère de Samson. L'ange de l'Éternel va se présenter, il va se manifester. Il est à la fois distinct et un avec l'Éternel. Étant semblable à lui, il parle comme étant Dieu lui-même, et sa personne parfois est confondue avec celle du Seigneur. C'est ce que nous allons découvrir dans quelques textes maintenant. C'est l'ange de l'Éternel qui révèle la face de Dieu. Et nous avons le texte de Genèse 32, verset 30, qui nous dit ceci. « Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, mon âme a été sauvée. » Sa présence équivaut aussi à la présence divine. Dans Exode, il est dit ceci. « Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. » Également, Exode 33, 14, l'Éternel répondit alors, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et enfin, dans Ésaïe 63, 9, « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. » Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés, il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Il y a une autre notion aussi qui est importante et intéressante de voir. Son nom est, la Bible tout simplement nous dit, merveilleux. Et dans Jude, au chapitre 13 et au verset 18, il nous dit, l'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il est merveilleux. C'est étonnant, parce que il se trouve que dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5, qui est particulièrement appliquée au Messie, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit, on l'appellera admirable, merveilleux. Et le mot admirable qui est traduit là dans la prophétie au chapitre 9 au verset 5, c'est le même mot en hébreu, que nous retrouvons ensuite dans Jude en grec, c'est le mot merveilleux. Ils ont le même nom. Ce qui prouve encore une fois cette divinité particulière de Christ. Dieu également va apparaître à Moïse dans Exode au chapitre 3 et au verset 2 jusqu'au verset 7. On va lire quelques versets simplement. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et un peu plus loin, verset 4, il est dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela. Voyez déjà rien qu'ici, il est question, un, de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et au verset 4, c'est Dieu. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, etc., qui est en Égypte et j'ai
entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.
Ici, on a parfois, il semblerait que parfois il y ait une confusion ou un amalgame. Il est question de l'ange de l'Éternel, et puis on bascule sur l'éternelle vie, et puis ensuite c'est Dieu, et puis c'est Dieu au présent. Je suis de nouveau le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. Donc il semblerait que tout est mélangé. En fait, rien n'est mélangé, c'est simplement, encore une fois, la personne de la Trinité, Dieu, en trois personnes bien distinctes qui se présentent. Et Abraham, comme nous l'avons vu ce matin concernant le prophète, ne se trompe pas. Il sait bien à qui il s'adresse, et il s'adresse à un Dieu au singulier, même s'il y a trois personnes. La suite de ce verset nous parle de l'Éternel, de Dieu. C'est vrai, c'est la même personne. Et il n'y a pas de confusion. L'ange de l'Éternel, ici, encore une fois, certainement, c'est Jésus-Christ. Mais il est à la fois Dieu. On a la même chose dans Gédéon, lorsque Gédéon va être appelé par l'ange de l'Éternel. Souvenez-vous, dans Juges, au chapitre 6 et au verset 11, là encore une fois, puis vint l'ange de l'Éternel, etc., etc. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, alors ça c'est étonnant, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, etc. Et au verset 14, il dit, l'Éternel se tourna vers lui. Et là encore, ça paraît étrange. Au départ, c'est un ange qui lui apparaît, et ensuite, c'est Dieu qui se tourne vers Gédéon. C'est la même manifestation. En fait, ici, c'est ce qu'on appelle l'apparition de Dieu. Vous savez, quand on a fait notre introduction, nous avons dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Et pourtant, on a vu plusieurs textes la dernière fois, que même des hommes de la Bible, Moïse et d'autres, auraient soi-disant vu Dieu. Mais nous avons expliqué qu'en réalité, ils n'avaient pas vu Dieu avec leurs yeux, c'est-à-dire ils n'avaient pas vu Dieu tel que Dieu est, dans son essence naturelle, puisque d'abord la Bible nous dit que Dieu est invisible. Donc on ne peut pas voir Dieu. Mais ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'on appelle une théophanie. Ils ont vu une manifestation de Dieu, une représentation de Dieu. Rappelez-vous, j'ai pris l'exemple du miroir. On peut se regarder dans un miroir, mais en fait, nous n'avons jamais vu notre visage tel qu'il est. Nous n'avons vu que le reflet de notre visage, même dans un miroir. Et comme je l'ai expliqué, nous l'avons même vu à l'inverse. Mais jamais nous n'avons vu notre visage tel qu'il est. Et avec Dieu, c'est la même chose. Ces hommes ont vu une représentation. Quand l'ange de l'Éternel intervenait, ils ont vu une représentation de Dieu, une manifestation de Dieu. Mais ils n'ont pas vu Dieu dans son essence naturelle, tel qu'il est vraiment, puisque Dieu est saint, 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 et aucun homme ne peut le voir et conserver la vie. On pourra voir Dieu uniquement quand on sera là-haut, parce que notre corps corruptible aura été changé en un corps incorruptible. Et là, on sera non simplement devant Dieu, mais on sera pleinement dans sa présence. Ça sera complètement différent. La présence même de Dieu. L'expression « l'ange de l'Éternel » revient plus de 50 fois dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas voulu prendre tous les textes. Mais jamais vous avez dans le Nouveau Testament cette expression qui revient. Par contre, vous avez l'expression « l'ange de Dieu » qui apparaît dans la Bible plus de 12 fois et 10 fois dans l'Ancien Testament, dont 6 fois concernant l'apparition directe de Jésus-Christ. Donc on se rend compte que Christ était véritablement présent. Il était là. D'ailleurs, Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament. Vous le savez. Plusieurs fois, il est question de sa personne. Et bien des passages annoncent la venue de Jésus. Certains de façon très claire, c'est vrai, mais d'autres de manière beaucoup plus cachée. Je l'ai dit tout à l'heure, plus de 60 prophéties ont été données sur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament et ont été confirmées dans le Nouveau Testament. Même si ça intéresse certains, on a des listes aussi de toutes ces prophéties et vous pouvez les comparer. D'ailleurs, vous pouvez prendre un dictionnaire biblique ou une concordance et vous trouverez les prophéties qui concernent Jésus-Christ et vous verrez l'accomplissement qu'il y a eu également dans le Nouveau Testament. Jésus est annoncé au travers, notamment dans l'Ancien Testament, de tous les sacrifices de la loi. Quand vous prenez le livre des Nombres où il est indiqué tous les sacrifices de Christ, c'est-à-dire quand il est question du sacrifice d'un veau, d'un agneau, d'une colombe, d'un bœuf, etc., tous ces sacrifices ont une signification. Tous ces sacrifices, selon la loi hébraïque, avaient une notion très particulière, qu'on retrouve dans le ministère de Jésus-Christ, qu'il a lui-même accompli quand il était sur terre. Et Jésus a été annoncé à travers tous ces sacrifices. C'est, je dirais, tous ces sacrifices, c'est une facette même de Jésus-Christ qui s'est manifestée. Chacun d'eux nous donne un aspect de sa personne, de son œuvre, de son amour, de son action, de sa compassion, de sa miséricorde. Et il faudra beaucoup de sacrifices pour secourir le peuple d'Israël, mais Jésus, en un seul sacrifice, va amener les hommes à une perfection de salut absolu. Uniquement le sacrifice de Christ. C'est vrai, quand nous regardons l'Ancien Testament, on se dit, mais quelle boucherie, hein. C'est incroyable, à chaque fois qu'il y avait des péchés que commettait le peuple d'Israël, alors ils avaient ordre de confesser leurs péchés, mais non simplement de les confesser, un sacrifice devait être fait. Pourquoi ? Parce que c'est par le sang qui coule que nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés. Sans effusion dessus, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon qui peut être valable, pas de miséricorde qui peut être accordée. Et c'est pour ça, quand je parle du sang qui coule dans l'Ancien Testament, on parle du sang uniquement des animaux. Jamais, et c'est important de le préciser, jamais Dieu n'a voulu de sacrifice humain. Ça, c'est quelque chose que Dieu a toujours exclu. D'ailleurs, le peuple d'Israël est bien sûr souvent tombé très bas, puisque eux sont allés jusqu'à commettre des sacrifices humains quand ils se prosternaient devant d'autres dieux, d'autres divinations, entre guillemets, les Astarté, les Baal, etc., où là, ils avaient l'ordre de sacrifier leurs enfants même, et ils le faisaient. Et Dieu a repris ce peuple très sévèrement parce qu'il proclamait cela et il disait que ce qu'il commettait là était un péché très grave et que c'était une abomination ce qu'il faisait. Ça, on voit que les gens, même à l'époque, parce qu'ils avaient perdu la bonne conscience, sont capables de faire n'importe quoi et d'aller dans des excès extrêmes que Dieu finalement n'a jamais demandé. On va souligner simplement 5 passages qui annoncent de manière très claire la venue de Jésus-Christ. Tout d'abord, nous avons Ésaïe au chapitre 7 au verset 14 qui nous dit ceci. Il n'y a pas plus clair que cela. C'est... Alors Ésaïe, c'est combien à peu près avant Jésus-Christ ? Je vais vous faire travailler un petit peu parce que je vois vous dormez là. Alors. Voilà, 650-700 ans avant Jésus-Christ. Donc ça remonte à un moment déjà, hein. Mais 650-700 ans avant Jésus-Christ, ce petit gaillard dit ceci, « Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle... » Et pas n'importe comment, d'une Vierge qui deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera un nom particulier. Il y a là une précision formidable. Cela est confirmé, vous le savez, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, verset 23. Dans Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 5, il est ceci. Il est dit ceci. Un peu plus loin, il dit cela. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, etc. Et puis, il y a tout le reste de la prophétie. Le chapitre d'Ésaïe 53 est communément appelé le cinquième évangile. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il donne une description extraordinairement parfaite et précise des souffrances que Jésus-Christ va endurer. Et quand vous lisez Ésaïe 53, si un jour vous devez visiter quelqu'un à l'hôpital qui peut-être est dans une situation difficile, et qui est au seuil peut-être de la mort, et puis qui voudrait peut-être découvrir quelque chose de la part de Dieu, lisez-lui Ésaïe 53. Il y a là un texte qui dépeint exactement ce que Christ a vécu quand il est venu sur la terre. Et avec une précision encore là, une fois, extraordinaire. Le psaume chapitre 22, verset 17, là on est à l'époque de David, il est dit... Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ésaïe chapitre 50 verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Et quand vous lisez les évangiles,
Il nous est dit qu'on a craché sur Jésus, qu'on l'a battu, qu'on a fouetté également son dos, 40 coups moins 1. Il a été meurtri de cette manière-là, et déjà des centaines d'années avant, la prophétie avait été annoncée. Nous pourrions bien évidemment allonger la liste de ces passages, mais ceux-ci sont suffisamment convaincants. Il y en aurait encore plusieurs dizaines que l'on pourrait montrer ici. Alors, la preuve de la divinité de Jésus-Christ, je crois que nous avons déjà eu l'occasion de la souligner. Nous avons relevé le fait que l'ange de l'Éternel, Jésus, était aussi appelé Dieu. Et je crois que la divinité, finalement, tombe sous le sens. Je termine simplement. Jésus est tout simplement Dieu. Tout simplement. Mais il est une identité bien à part. Et on est obligé de préciser cela, comme je l'ai dit en introduction la dernière fois, parce que en disant que Jésus est Dieu, alors une certaine religion nous dit, mais vous voyez bien que finalement Marie est la mère de Dieu, en étant la mère de Jésus. Mais pas du tout. Jésus est Dieu dans son attribut, il est Dieu dans sa forme, il est Dieu dans son ministère, il est Dieu dans ce qu'il a accompli sur la terre. Mais Marie n'a enfanté que Jésus. Elle n'a jamais enfanté Dieu. Elle a enfanté celui qui s'est incarné sur cette terre. Mais Dieu, jamais, puisqu'il n'a ni commencement ni fin. Il est lui-même l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il n'a pas besoin d'avoir été enfanté, et c'est pour ça que je disais la dernière fois que c'était une abomination que de réduire le Créateur à avoir besoin d'une créature pour être engendré. Le Créateur est le Créateur. Mais Jésus est Dieu dans sa nature, dans sa manifestation, dans sa personne et dans son ministère. Dans Philippiens chapitre 2 verset 5, il nous est dit que Jésus existant en forme de Dieu. Dans chapitre 20 le verset 28, Thomas dit à Jésus, nous l'avons cité ce matin, mon Seigneur et mon Dieu. Et nous avons dit que Jésus n'avait pas été Dieu, mais certainement qu'il aurait dit à Thomas, tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Il a repris déjà d'autres personnes en disant, vous n'avez pas le droit de m'appeler de telle ou telle manière. Si Jésus n'avait été qu'un ange, comme par exemple l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, dans le livre de la Révélation, quand il voit une apparition de l'ange, et là c'est pas Jésus, mais c'est véritablement un ange, il se prosterne. Et l'ange lui dit, non, non, t'as pas le droit de te prosterner devant moi. Tu te lèves. C'est devant le Maître et devant le Créateur que tu te prosternes, pas devant les anges. Et on se rend compte que dans différents domaines, les choses sont très précises. Et si Jésus n'avait pas été Dieu, il aurait dit à Thomas, tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Mon Seigneur peut-être, mon Dieu, non. Mais il ne dit rien, parce que Jésus est véritablement Dieu. Il est le Fils de Dieu, mais il est Dieu. Dans Hébreux au chapitre 1er au verset 8, il nous est dit aussi ceci, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Il est l'éternité. Et il est vivant pour l'éternité. C'est une partie ici du psaume 45 que l'auteur de l'épître aux Hébreux attribue à Jésus-Christ. Jésus est présent à la création du monde avec son Père, nous l'avons vu dans Jean 17,5, quand il est dit que maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Est-ce que c'est pas clair ça? Mais c'est pas un texte de l'Ancien Testament, mais c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Évangile. Maintenant, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant même que le monde soit. Donc Jésus existait avant même que notre terre n'existe. Et il possède Jésus, tous les titres divins. Quand vous prenez Ésaïe, chapitre 9, verset 5, on l'a cité tout à l'heure, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Ça, c'est particulier quand même. Prince de la paix. Il a tous les attributs de la divinité. Alors, comment certains ne veulent pas reconnaître la divinité? Je crois qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. On peut bien sûr tordre l'écriture, la prendre dans tous les sens. Je vous ferai remarquer que dans l'étude que nous avons commencée mardi dernier, qu'on a continué ce matin et maintenant, et qu'on va terminer mardi soir, on n'a fait aucune interprétation particulière de l'écriture. J'ai volontairement voulu simplement vous citer des versets. Je n'ai pas voulu prendre des versets en disant, voyez, on peut le prendre sous cette forme-là, et sous cette forme-là, ça veut dire ça. Pas du tout. Ça, ce sont des versets qui sont simples, qui sont clairs, qui sont nets. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Prince de paix. Tous les attributs divins sont là. Il n'y a pas besoin de tordre l'écriture. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est Dieu qui révèle son Fils comme le Fils de Dieu véritable qui a tous les attributs du Père en lui. Et enfin, je termine. Dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est assimilé à quelqu'un que vous avez peut-être déjà connu, c'est Melchisédek. S'il y en a qui cherchent des noms pour des petits-enfants... Bon, à l'école, c'est pas évident, hein, mais... Alors, ce Melchisédek, il est quand même d'un mystère assez particulier. Il débarque, on ne sait d'où. Et puis, il nous parle d'Abraham, il nous parle... Il est l'investigateur même de la dîme. Peut-être qu'il y en a, ils ont dit, celui-là, il aurait peut-être pu prendre un peu de temps avant de venir. Mais il y a quelque chose là vraiment d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit de cet homme, dans Hébreux, au chapitre 6, verset 19, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et il va se présenter à Abraham. Et il dit ceci, cette espérance... Nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et au verset 1er du chapitre 7, « En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. » Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit, etc., etc. Et vous avez tout le reste du chapitre ici. Assimiler Dieu, ou plutôt, pardon, Jésus-Christ, à Melchisédek, c'est lui affecter une autorité. Quand on proclame ici, il n'a aucun commencement de vie et aucune fin de vie. Donc la divinité est véritablement là en Jésus-Christ. Alors je conclus en disant qu'il ressort de tout cela que l'apparition de l'ange de l'Éternel est ce qu'on a dit tout à l'heure, une véritable théophanie, c'est-à-dire une manifestation visible et ou audible de Dieu à travers Jésus-Christ, car Dieu le Père, lui, demeure invisible. Constamment, Jésus, nous l'avons vu, est présent dans l'histoire de l'Ancien Testament. Et je dirais que, pour terminer ces moments, quiconque, refuserait d'accepter Jésus comme son divin sauveur, comme son divin Seigneur, se rend coupable du péché de rejeter Dieu lui-même. Et Jean confirmera ce que je viens de dire en conclusion, quand l'évangile de Jean nous dit que si nous n'avons pas le Fils, alors nous ne pouvons pas accéder au Père. Le seul fait de refuser Christ est défini comme un péché tellement grave que la porte du ciel nous est fermée. Et vous avez cette manifestation dans la parabole que Jésus donne entre Lazare et le mauvais riche. Lazare et le mauvais riche. Quand il est question de cet homme riche, et quand vous lisez cette parabole, vous dites, mais qu'a-t-il fait, ce gars-là, pour être exclu du royaume de Dieu? Quel est ce si grand péché qui n'a pas pu permettre à Dieu de le faire entrer dans son royaume pour l'éternité. Est-ce qu'il a tué? Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a truandé? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand vous lisez cette parabole, vous dites, mais cet homme a dû faire vraiment quelque chose de très grave pour être exclu de la sorte. Et vous avez, comment dirais-je, la pensée de dire, mais, et c'est ce que l'Église catholique a pris un temps, en disant, mais s'il n'est pas entré au paradis, c'est parce qu'il était riche. Alors certains ont dit, mais les riches ne pourront pas entrer dans le paradis, mais les pauvres, oui. Alors c'est comme ça qu'on a eu des clergés et d'autres qui ont commencé à proclamer la pauvreté, et puis il fallait vivre dans la pauvreté. Alors que eux n'étaient pas tant dans la pauvreté que ça, hein. Mais c'était surtout pour les autres, ça les arrangeait. Et on a fait passer pendant un temps cette doctrine-là, cette théorie-là. Mais c'est pas du tout ce que Dieu a reproché. C'est pas le fait d'être riche qui nous empêche de rentrer au royaume de Dieu. Pas du tout. On peut être pauvre et ne pas y rentrer. Et on peut être très riche et y rentrer. Qu'est-ce que a commis comme péché? Quel péché a commis cet homme pour ne pas vouloir entrer là? Pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Quand vous lisez ce qui est dit concernant sa situation en enfer et son dialogue avec Dieu et en même temps sa demande, la réclame qu'il fait en disant à Lazare, mais si tu pouvais l'envoyer pour que au moins il puisse tremper son doigt avec un petit peu d'eau pour que cela puisse me désaltérer. On se rend compte qu'il y a une souffrance là qui est terrible, qui est profonde. Et il va dire, renvoie-le. Renvoie-le sur terre pour qu'il parle à mes frères. Pour qu'ils écoutent et qu'ils ne viennent pas là où je suis, moi. Et le Seigneur va répondre, mais ça ne sert à rien de l'envoyer. Ils ont déjà les prophètes, ils ont déjà tout le monde. Ils ne les écoutent pas. En gros, ils n'en font aucun cas. Ils s'en moquent. Ça ne les intéresse pas. Et ça nous ramène à quelque chose de très terre à terre. Pour ne pas entrer dans le royaume de Dieu, c'est très simple. C'est pas la peine de mentir, de tuer, de voler, etc. Il suffit simplement de ne pas faire cas de Jésus-Christ. De refuser Christ. De mettre Christ de côté. De ne pas reconnaître sa divinité. De ne pas reconnaître son ministère. De ne pas reconnaître son action. Ce pourquoi il est venu sur cette terre et ce pourquoi il a donné sa vie. Vous pouvez, et nous pouvons avoir une vie excellente, nous pouvons avoir une vie parfaite dans tout domaine. Moralité, démarche familiale, professionnelle, dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos actions, dans tout ce que vous voulez, on peut être parfait. Si nous refusons Christ, nous allons tout droit en enfer. Malgré tout l'argent qu'on pourrait donner pour des bonnes œuvres, malgré toutes les œuvres que nous pourrions faire nous-mêmes, la Bible nous dit, ce n'est pas par les œuvres que tu es sauvé, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Et en reconnaissant la divinité de Jésus-Christ, cela nous propulse tout simplement dans un domaine surnaturel et spirituel, qui là, comme je le disais ce matin, change notre vie, bouleverse notre vie, bouleverse notre existence, et nous amène dans une réalité entière et profonde. Jésus est donc vivant, il est donc aujourd'hui auprès de Dieu, il intercède donc pour nous, il devient, et non simplement il devient, mais il est notre libérateur, notre sauveur, et il est celui qui nous amène avec lui dans la gloire et pour l'éternité. Alléluia. C'est donc lui qu'il nous faut accepter, c'est lui qu'il nous faut garder, ne le rejetons pas, mais acceptons vraiment Christ dans notre vie et marchons tout simplement avec lui pour l'éternité. Alléluia. Je vous invite à prier quelques instants. Merci pour ta parole et pour ces moments, Seigneur. Merci pour ton œuvre et pour ton amour, et merci de nous préciser encore que Christ est véritablement le libérateur, et que Christ est vraiment le Fils que tu as envoyé, que Christ est véritablement ton Fils, le Fils de Dieu, mais qu'il est Dieu lui-même dans tous ses attributs, c'est-à-dire qu'il est le Tout-Puissant, et que nous pouvons croire en lui. Et quelle chose extraordinaire de nous rendre compte que lorsque nous marchons avec toi, Seigneur, et que nous t'acceptons dans notre vie, ce Dieu si grand, si puissant, dont ta parole nous dit que même l'univers entier ne peut te contenir, toi, par ta grâce et ton amour, tu viens même demeurer dans notre petit cœur. Quelle grâce, Seigneur, et quelle fidélité, quelle soumission à ton Père. Nous te bénissons et nous voulons avoir toute notre reconnaissance qui s'élève vers toi dans cette soirée. Sois béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, pour que chacun cet après-midi puisse repartir de ce lieu en t'ayant accepté dans son cœur. Que personne ne sorte de cette salle sans t'avoir vraiment pleinement accueilli en lui, en elle. Entre dans les cœurs de chacun d'entre nous et fais ta demeure dans nos cœurs, dans chacune de nos vies, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.